La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient est Samira El Hayashi. Vous publiez Le ventre des hommes, un roman paru aux éditions de l'Aube. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors il s'agit de votre quatrième livre, Le ventre des hommes. C'est un roman très personnel, ancré dans un territoire, le nord de la France. Vous nous racontez le quotidien d'une famille marocaine qui évolue dans le milieu de la mine et des corons dans les années 70. Vous rendez hommage aux immigrés qui ont contribué à la prospérité de la France. Et c'est une région que vous connaissez bien puisque vous avez grandi dans le Pas-de-Calais. Comment est né ce très beau livre, Samira El Hayashi?
C'est un roman que je porte depuis 10 ans, pour tout vous dire. Ça fait très longtemps que j'avais envie de me plonger dans cette histoire dont je suis issue, qui me touche particulièrement. Et il faut dire que j'y suis allée de façon très intuitive et instinctive. La question que je me posais, c'est d'où me vient le goût des mots. Pour beaucoup, c'était l'école. Et en fait, petit à petit, en plongeant dans cette histoire, j'ai découvert que je portais une histoire que je ne connaissais absolument pas comme héroïne de mon roman. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire de l'écriture de ce roman a commencé.
Alors, l'héroïne Anna est une fille de mineur marocain, comme vous. C'est un roman d'imagination, mais vous avez puisé dans vos souvenirs, mais aussi effectuer des recherches pour rendre compte de la réalité de ces travailleurs étrangers dans les années 70. Comment ces hommes sont-ils arrivés en France? Quelles étaient leurs conditions de travail, puisque c'est un des sujets du livre?
Oui, pour la première fois, j'ai dû faire un peu le travail d'une historienne, alors que je ne le suis pas. Donc j'y suis allée un peu en tremblant et je me suis plongée dans des archives. J'avais très peu de sources. Les ressources que j'avais, c'était surtout la parole de ces anciens mineurs. Alors, effectivement, on est au tournant des années 70 et la France manque de bras pour aller puiser dans le charbon. On sait très bien que les mines de charbon vont fermer. Et à ce moment-là, la France a une idée très surprenante, voire tout à fait scandaleuse même, qui est d'aller chercher des hommes dans le sud du Maroc, qui vont être là pour préparer la fermeture des mines des autres nationalités. Et ces hommes-là n'auront pas, eux, le statut de mineur, qui est un statut qui existe depuis la libération, hein, après-guerre, et qui garantit des droits comme le logement, le droit au logement, le travail à vie. Enfin, voilà, c'est quasiment du fonctionnariat. Et c'est cette histoire-là, cette injustice-là de départ que j'avais envie de raconter.
Et ces hommes qui ont quitté leur pays pour travailler en France se sont battus pour leurs droits. Vous montrez des immigrés à la fois dignes et combatifs. Vous ne les dépeignez pas comme des victimes. Le père de l'héroïne a été porte-parole des mineurs en grève.
Effectivement, le projet de ce roman, c'était surtout de rendre compte de la force de ces hommes à prendre la parole dans l'espace public, à s'éprouver au contact de la France et des villes du bassin minier, qui avait quand même une histoire avec le communisme, une histoire du syndicalisme. Il me semblait que c'était important de montrer ces hommes-là qu'on a souvent perçus sous l'angle du misérabilisme, de personnes dociles. Non, au contraire, elles sont très très riches, elles ont une langue, elles ont une histoire, et surtout elles se sont battues pour leurs droits, avec les moyens de la démocratie aussi. Elles ont utilisé la grève et d'autres, et elles ont désobéi aussi.
Samira El Hayashi, j'aimerais lire un extrait de votre livre. « J'entends la voix intérieure de mon père aimer la loi et le droit français, poursuivre l'histoire sans fin de la Révolution française, et j'ai les yeux mouillés. Ces mêmes hommes immigrés en train de pointer du doigt les zones de non-droit du pays d'accueil, avec les outils démocratiques, les immigrés qui font une leçon de démocratie à la gueule de la démocratie, rappellent les règles inaliénables de la République, les émigrants plus républicains que la République même. » On peut situer ce passage?
La, Anna donc va commet au tout début du roman un acte très fort au sein de l'établissement dans lequel elle travaille et elle va en profiter pour revenir en arrière dans son enfance et découvrir l'histoire de son père. Elle ne savait pas du tout qu'il avait été porte-parole des mineurs en grève, qui est aussi un petit peu mon histoire. Et ça, c'est la réaction d'Anna au moment où elle réalise que, contrairement à ce qu'elle imaginait, il y a la surprise, l'inattendu, que ces hommes se sont battus pour défendre leurs droits, et ça fait écho en elle de récupérer cette part d'indocilité dont elle a besoin aujourd'hui pour elle-même, pour construire sa vie et pour avancer en tant que citoyenne.
Et l'homme que les Français admirent aujourd'hui, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est l'homme qui a dit non.
Il faut se souvenir de ça, c'est-à-dire que l'histoire avance aussi parce que certains se dressent et désobéissent. Et il me semble que cette histoire des mineurs marocains qui ont été seuls, il faut le rappeler, c'était la fin des mines, tout le monde était un peu fatigué, les Marocains se sont retrouvés face à une situation injuste où ils avaient deux solutions, mais surtout retourner au pays. Ils avaient une pression monstrueuse de la part des Houillères, de la part du Maroc aussi, pour rentrer chez eux. Et le combat, il en fallait dans le ventre, le combat qui a été de résister et de dire non. Et c'est cet héritage-là dont j'avais envie de parler, qu'en France, c'est jamais acquis, il faut toujours prendre soin des institutions et du droit, et on peut pas laisser les autres le faire, on peut pas laisser même la loi et même le faire. Il faut à un moment donné prendre ce qu'ont fait ces hommes, le risque, et avoir du courage pour construire un destin juste.
Samira El Hayachi, ce qui est très beau dans votre roman, c'est que vous montrez que derrière chaque immigré, chaque Chibani, il y a une histoire, il y a une vie qui est ignorée par les Français, mais aussi par les enfants de ces immigrés.
Il y a l'oubli, en priorité de la langue maternelle. C'est un oubli collectif, c'est un oubli aussi individuel, puisque les enfants ne sont pas intéressés. J'avais envie de rappeler qu'il y a quelque chose de très politique dans les langues. Il y a une hiérarchie des langues. Comme dit Anna, il y a des langues qui comptent double au bac et d'autres qui comptent pour du beurre. Et effectivement, à ce moment-là du roman, je voulais rappeler le fait que ces hommes-là arrivent avec un héritage, une histoire, un patrimoine qui sont essentiels au pays même d'accueil, ne serait-ce que savoir prendre soin du collectif. De l'autre côté de la Méditerranée, il y a une culture ancestrale qui fait que la tribu, les solidarités sont essentielles à la survie du groupe. Et donc, c'est quelque chose que les gens vont refaire ici et ça va être un apport considérable pour le territoire. Et il y a aussi la langue, les poésies écrites par des femmes, toute la littérature orale que les hommes transmettent. Il est vrai que ce sont des livres ouverts. Ces hommes-là, ce sont des livres ouverts qui ont des histoires incroyables à raconter, mais qui peut les écouter et les entendre à la juste place?
Alors j'aimerais lire un autre extrait de votre roman qui évoque le rapport de l'héroïne à la langue de son père. Ainsi, la langue de mon père n'appartient pas qu'au père, la langue de mon père n'appartient pas qu'à Dieu et à ses croyants, la langue de mon père est celle de l'amour arabe, et j'ai accès par la langue à une infinité d'émotions, sensations, sensualisations dont je me suis privé jusqu'alors. Comment se remettre doucement du mépris qu'on a eu pour une partie de soi, si ce n'est en écrivant autrement le récit qu'on portait en héritage ?
Anna, à ce moment de l'histoire du roman et dans mon histoire personnelle aussi, réalise que contrairement à ce qu'elle pensait, son père n'est pas illettré, n'est pas un analphabète. Il connaît parfaitement une langue qu'elle-même ne connaît pas, à savoir la langue littéraire arabe. Et c'est un choc pour l'héroïne, comme ça a été un choc pour moi dans mon parcours, de réaliser que les personnes dont je suis ici ont un patrimoine qui ne m'a pas été légué parce que je ne l'ai pas regardé, tout comme mon héroïne. Alors qu'elle contient les germes pour comprendre le monde, pour déconstruire aussi certaines choses qui sont liées à cette même culture et cette même histoire. Et c'est évidemment un hommage que j'avais envie de rendre à ces langues maternelles, à ces langues dont nous sommes issus, qu'on ne regarde pas forcément parce que notre regard est porté ailleurs.
Alors c'est aussi un livre qui nous parle du racisme ordinaire en France dans les années 70. Je vais lire un autre extrait. « Papa, tu étais seul dans les baraquements à tourner comme un fou avec d'autres hommes. Les mères des filles blanches, elles disaient que vous attrapiez les femmes, que vous les couchiez par dizaines dans vos lits puant le mouton. et que chez vous, c'était normal, vous aviez le droit à 10 femmes, ça fait partie de leur culture. Papa, tu tournais comme un fou en rond avec d'autres hommes, on disait aux enfants de ne pas aller vers le bas de la commune, il y avait les Arabes dans les dancing la nuit à Lille, il y avait une pancarte, contrairement aux autres, tu savais lire, c'était écrit « Entrée interdite au bico ».
Et oui, cette histoire de rencontre entre les hommes du sud marocain, les hommes marocains et les hommes du nord de la France était prévue pour mal se passer, puisqu'on est allé chercher des hommes, entre guillemets, pauvres, du point de vue économique, qui fuyaient pour moi la chasseresse, alors qu'ils étaient, comme je le dis dans le roman, il y a un gros malentendu, c'était des hommes qui étaient dotés de terres et qui avaient un grand sens du travail. Mais effectivement, ils arrivent sur un territoire où rien n'est préparé à ce que la rencontre se passe bien, puisqu'ils sont réduits à des bras, à une force économique, et que la population d'accueil n'est pas vraiment préparée, et l'envisage aussi comme tout le prisme de gens qui viennent travailler et qui n'ont pas d'existence, pas de sexualité, pas de corps, pas d'histoire, pas d'identité. Donc il faudra beaucoup de temps pour que la rencontre se fasse, qui n'est pas non plus gagné encore aujourd'hui.
Ça n'est pas gagné encore aujourd'hui, dites-vous, Samira El Ayachi. On a le sentiment que l'histoire se répète aujourd'hui.
C'est exactement ce qui va se passer pour Anna dans mon roman. En tout cas, va arriver un drame dans notre pays, qui sont les attentats, où c'est le moment de la perte de l'innocence collective. Enfin, j'avais vraiment envie de parler de ça. À quel moment est-ce qu'on n'a pas perdu cette innocence collective, ce sentiment que vivre ensemble est possible? Il me semble que ça s'est produit à ce moment-là. Et qu'il y a beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de malentendus qui étaient là en germe dans l'histoire depuis l'arrivée de ces populations jusqu'à nous. Mais il y a aussi des belles choses dont j'avais envie de parler dans le roman. C'est toutes ces gens, toutes ces personnes qui résistent, qui vont aider la famille d'Anna, qui vont, au moment des grèves, payer les cantines, garder les enfants, donner un peu d'argent aux parents. Et ça, c'est la part résistante qui fait la France. Et il ne faut pas oublier, Anna le découvre, et moi-même j'ai découvert en découvrant la sociologie, qu'elle comprend que c'est qu'une partie d'une élite qui a ce regard sur la France. Mais que la France, c'est pas ça. La France, c'est tout ce qui se passe tous les jours au quotidien, aller chercher sa baguette de pain, aller à l'école, et globalement, les choses se passent bien. C'est dans l'imaginaire qu'il faut réparer les choses.
Samira El Ayachi, votre livre comporte aussi quelques documents sur l'histoire de l'immigration. D'abord, comment les avez-vous découverts? Est-ce que vous pouvez nous parler notamment du document qui se trouve à la fin, qui s'appelle « Conseil à la maîtrise, le comportement envers les ouvriers nord-africains ».
Écoutez Loïc, moi quand je suis tombée sur ces documents, ça a été un choc. De découvrir cette littérature protocolaire qui sont effectivement des lettres cadres envoyées aux encadrants des personnels marocains entre autres. Et en face, on avait des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Et effectivement, de découvrir que jusqu'au plus haut sommet de l'État, on était au courant de ces pratiques-là. Et cette lettre, ce document explique au cadre comment obtenir de la part de la main d'œuvre marocaine un maximum de rendement en fait. Voilà, donc ça dit beaucoup de choses de la façon dont étaient traités les ouvriers marocains à l'époque, mais aussi de la façon dont l'institution a organisé cette différenciation des nationalités. Bon, à aucun moment on entend le point de vue des ouvrières dans le roman, et je l'ai mis à la fin du roman pour que les lecteurs se fassent une idée de la violence et de l'asymétrie face à laquelle ces hommes étaient. Et c'est vraiment une violence de cadre des ouvrières contre un groupe d'hommes qui étaient embauchés parce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, il faut le rappeler. Effectivement, ils expliquent comment utiliser cette main-d'œuvre et se sentent obligés de rappeler des choses basiques comme le fait qu'ils aient une langue, une famille, un nom, une patrie. Voilà. C'est assez étonnant et ça raconte quelque chose de cette époque-là, de cette période-là et de la façon dont les hommes étaient perçus et réduits à une force physique à des fins économiques. C'est exactement, je m'arrête là.
Samira El Hayashi, c'est l'histoire d'un monde qui finit et d'un autre qui commence, notamment la vie de Anna. On suit son enfance au début des années 80. C'est un petit peu l'histoire de France de ces 40 dernières années à laquelle on assiste. On voit l'émergence de SOS Racisme. Il y a Germinal, les Corons. Toute la culture de cette jeune fille aussi qui est dans ce roman.
C'était formidable pour moi de retraverser ma propre enfance et que Anna regarde le monde des adultes avec les yeux d'enfant. Elle y voit l'absurdité, c'est-à-dire le moment où elle découvre que quelqu'un issu d'un mouvement du Front National veut se présenter à la présidente de la République et qu'il ne l'aime pas. Elle ne comprend pas, enfin, elle pose la question à son frère et elle découvre le racisme, elle découvre qu'elle est étrangère. Et c'était intéressant de voir notre réalité sous les prismes de l'enfance qui, de ce point de vue-là, tout a l'air complètement absurde et c'est une fiction qu'on se raconte. Et c'est vrai qu'Anna, elle, va vivre ce qu'elle a appelé des burn-out mondiaux en découvrant la guerre, en découvrant la guerre à la télé, en se prenant des images de violence. Et dès lors, c'est vrai que son premier refuge, ça va être les livres.
Alors le charbon était sur le déclin, ce monde des corons, aujourd'hui on ne peut plus en parler qu'au passé. Un jour la dernière génération des mineurs ne sera plus là pour en parler. C'était important aussi pour vous de fixer ce souvenir d'une France qui n'existe plus ?
Oui, c'est vrai que si j'ai mis beaucoup de temps à écrire ce roman, c'est qu'il était très très important pour moi et que je réalisais que cette histoire, si elle n'est pas racontée, elle va être perdue. Or, elle nous aide à comprendre le présent. Elle nous aide à comprendre les erreurs qui ont été commises et comment des hommes l'ont rattrapée d'une façon magnifique, puisqu'ils l'ont utilisée, comme dit précédemment, les outils de la République pour mener un combat et qu'ils sont devenus sujets et hommes. Et ce faisant, ils ont vraiment participé à construire le pays dans lequel ils ont décidé de poursuivre leur existence et que c'était un choix incroyable que décider de vivre ici au moment où ils avaient beaucoup de pression pour retourner au pays. C'est une belle histoire qui répare, en tout cas qui m'a aussi, moi, apaisée. Le fait de l'écrire, ça m'a beaucoup apaisée, en tout cas.
Merci Samira El Hayashi. Je renvoie nos auditeurs à la lecture du Ventre des Hommes, un très beau roman paru aux éditions de l'Aube. Merci.
Merci beaucoup Loïc et merci aux éditeurs de Radio Orient.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.